Eugène Péloumane, bonjour.
Bonjour Claire.
Quel bilan faites-vous de la dernière participation de la République centrafricaine aux éliminatoires du Mondial 2023 à Benguela en Angola?
C'est un bilan négatif. 3 matchs pour 3 défaites. Donc nous revenons à la maison bredouille. On n'a pas pu gagner un seul match. Et comme vous le savez, ça se joue sur 2 tours. Et ce sont les 3 premières équipes qui passeront au prochain tour. Donc il aurait été vraiment fantastique que nous ayons pu renverser par exemple la Guinée. Nous n'avons pas pu le faire et ça c'est dû au fait que nous n'avions pas une équipe assez équilibrée, pas assez de joueurs pour faire des rotations, que ce soit offensif ou défensif, et ça nous a coûté très très cher.
3 matchs pour 3 défaites, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous?
Contre la Guinée, c'est clair que notre évaluation, on est à 65 contre 105 pour la Guinée, ça veut dire que la Guinée était beaucoup plus efficace que nous dans presque tous les secteurs de jeu. 3 rebonds au moins, c'est des rebonds qui étaient importants justement parce qu'à la fin du match, il y a des rebonds qu'on aurait pu prendre, qui nous auraient permis de sécurisé sur le plan défensif, et on a manqué d'une certaine manière ces moments-là, ce qu'on appelle le money time, des moments qui sont importants pour gagner des matchs. Et moi, je pense qu'il faut mettre ça sur la fatigue, parce que si vous n'avez pas assez de joueurs pour jouer les matchs, c'est très difficile. Et sans jeter la pierre à nos jeunes de locaux, parce que je pense qu'ils ont tout fait, on a quand même fait une préparation de presque 40 jours, mais le championnat de Bangui n'étant pas ce qu'il devrait être en termes de niveau, nous n'avons pas eu de rendement de nos jeunes locaux qui n'étaient pas en fait préparés pour ce genre de compétition qui sont très relevés.
Revenons un peu sur ces 3 rencontres, RCA Guinée-Conakry, RCA Côte d'Ivoire et puis la République centrafricaine face à l'Angola.
Contre la Côte d'Ivoire, nous avons raté notre match. Dès le départ, cette équipe de Côte d'Ivoire a pris le contrôle. À la fin du premier carton, on était mené de 13 points. À la fin du deuxième carton, on était mené de 21 points, 28 points après le troisième carton. Et ce n'est qu'au quatrième carton qu'on a fait jeu égal, 22 à 22. Donc, ils nous ont battus de 28 points. Ils nous ont dominés pratiquement dans presque tous les secteurs, d'une certaine manière. Ils étaient beaucoup plus durs, que ce soit en attaque ou en défense. On a eu quand même quelques indisciplines au niveau des joueurs, puisqu'il y avait des joueurs qui ont handicapé leur rendement, puisqu'ils ne se sont pas reposés toute la nuit. Et nous payons cash à ce niveau. On ne pouvait pas se permettre ce luxe. Le résultat est ce qu'il est. Nous perdons 92 à 64, et ça, c'est pas très bien pour nous. Mais je pense qu'à la prochaine fenêtre, il y a des possibilités.
Lors de votre conférence de presse, ce mardi 7 décembre, vous avez dit qu'il faudrait beaucoup plus miser sur les joueurs de la diaspora. Pourquoi?
Oui, tout à fait. Le championnat de la Ligue de Bangui, depuis quelques années, ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Au niveau des catégories de jeunes, il n'y a pas de championnat depuis 5 ans. Au niveau des seniors, le championnat se déroule en dents de scie, ne respecte pas le calendrier international, puisqu'un championnat doit commencer fin août, début septembre et se terminer fin mai, début juin. On n'arrive pas à suivre ce calendrier-là.
Mais pourquoi à chaque fois on n'arrive pas à respecter?
Mais c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Il y a un problème peut-être de moyens financiers, et ce qui fait que nous avons pris des mauvaises habitudes depuis plusieurs années et on n'arrive pas à rectifier le tir. Nos joueurs qui jouent en équipe nationale seraient à des meilleurs niveaux, jouent un championnat en membre tout terrain comme on le faisait par le passé, qui nous a permis de développer nos techniques de jeu et bien sûr changer le rythme, aider les entraîneurs et ainsi de suite. Et je pense que nos joueurs vont pouvoir justement élever leur niveau de jeu, et à ce moment-là ils pourront rattraper ce qui se passe, les joueurs de la diaspora qui joue à des niveaux beaucoup plus élevés que celui d'ici.
Une deuxième fenêtre attend la République centrafricaine au mois de juillet 2022, toujours pour les éliminatoires du Mondial 2023. La RCA a-t-elle encore une chance de se qualifier pour l'étape suivante?
Tout à fait. Les 3 premiers de notre groupe vont passer au 2e tour. Nous avions été battus par la Guinée de 5 points. Je suis convaincu que si nous avions eu certains des joueurs que la DTN avait voulu convoquer et qui se trouvent dans la diaspora, le résultat de ces 3 matchs aurait été totalement différent. D'abord, l'Angola était très prenable, mais bon, jouant chez eux, avec leur public, avec une équipe centrafricaine qui n'était pas équilibrée, un Dokoussik d'ailleurs qui n'a pas joué le 3e match, il n'y avait aucune chance que nous puissions remporter ces matchs. Mais dans une 2e fenêtre, nous aurons la possibilité d'avoir ces joueurs, et nous devons tout faire pour les avoir si nous voulons gagner au moins 1, 2 et même 3 matchs. Cela est possible. De cette manière-là, on se donne toutes les chances de passer au 2e tour. On va croiser les 3 meilleurs de la poule avec le Nigeria, le Cap-Vert, le Mali et l'Ouganda, et tout est faisable. Et cela nous permettra d'être compétitifs à ce niveau de la compétition.
Selon certaines informations, à la veille d'une rencontre de la République centrafricaine, la majorité de joueurs auraient passé la nuit avec des femmes dans leur chambre d'hôtel, ce qui serait l'une des raisons de ces défaites successives récoltées par les Fauves en Angola. Qu'en dites-vous?
Bon, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais il y a des joueurs principaux, des joueurs qui étaient importants, qui se sont donnés à ce jeu et c'est très mauvais. Ça diminue le rendement. Je crois qu'il faille que l'on prenne des sanctions disciplinaires parce que ils seront des mauvais exemples pour leurs coéquipiers. Et donc, ça, c'est à changer.
Ça reste quand même un fait habituel ou c'est un fait récurrent le plus souvent?
Bon, ça, je ne peux pas dire que c'est récurrent parce que, bon, du moins, à Kigali, c'est vrai qu'il y a eu des cas d'indiscipline. Je n'ai pas pu constater ce genre de choses, mais à Benguela, c'était très, très flagrant. Je ne crois pas et je ne pense pas que c'est la meilleure façon de faire quand on veut jouer au niveau de cette compétition, d'autant plus que c'est 3 jours de compétition. Si les gens veulent s'amuser, ils peuvent attendre après. Ils savent que notre pays n'est pas un pays qui a les moyens comme certains autres pays et que quand un investissement est fait pour ce genre de cause, il faille qu'eux ils soient beaucoup plus professionnels, qu'ils fassent le travail qu'ils ont à faire, c'est-à-dire jouer et se battre pour avoir les meilleurs résultats. Ensuite, ils sont libres, ils ont quelques jours après, ils peuvent s'amuser comme ils veulent.
Quelles sont les mesures disciplinaires prévues à cet effet?
Généralement, dans ce genre de cas, les mesures disciplinaires, c'est que le joueur ne sera pas invité à une préparation. Parce que si les plus jeunes voient ceux qui sont beaucoup plus âgés qu'eux agir de cette manière, ça deviendra une culture.
Quelles sont vos relations avec la Fédération centrafricaine de basketball?
Il y a eu des tensions puisque la Fédération avait décidé de cesser leur coopération avec moi.
Et pourquoi? Les
raisons qui avaient été soulignées, c'est parce que j'avais contribué à un budget qui avait été établi par le ministère des Sports. Donc, ils ont pris cette décision qui, je pense, n'était pas nécessaire. Le ministère, c'est aussi la fédération, puisque c'est 2 entités qui doivent marcher ensemble. Donc, moi, en ce qui me concerne...
C'était pas aussi parce que vous avez nommé un de vos proches, sans pour autant informer le bureau fédéral.
Non. En fait, d'abord, première chose, j'ai ajouté 2 noms. Romain Sato, et c'est bizarre qu'on ne cite pas son nom, on parle de mon frère. Et je dis c'est mon frère François Junior Péoa, mais je n'ai pas pris François Junior Péoa parce que c'est mon frère. Je l'ai pris parce qu'il a fait ses preuves, il est entraîneur en France. Il évolue à un niveau qui est supérieur à tous les entraîneurs qui sont ici à Bangui. Il évolue dans un championnat qui est largement supérieur à celui de Bangui. Donc, il peut apporter quelque chose qui peut permettre à notre basketball d'évoluer. Et souvent, quand on veut amener l'excellence, on essaie de bloquer, d'autant plus que c'est quelque chose dont j'avais parlé au président de la fédération bien avant Kigali. Et on m'avait signifié qu'il y avait trop de POA dans l'équipe à cette période-là, mais qu'après Kigali, cela serait faisable. Déjà, il y avait des problèmes pour que je devienne directeur technique. On avait donné
mais
des
raisons. Mais une autre information, en notre possession, c'est que vous ne vous entendez pas avec certains joueurs.
Je crois que les gens confondent les choses. Je pense qu'un directeur technique a des responsabilités. C'est lui le chef d'orchestre. Il se doit d'avoir une certaine discipline dans une équipe. Moi, je ne badine pas avec la discipline. Je n'apprécie pas les joueurs qui parlent avec moi et derrière vont dire d'autres choses. Ça, c'est l'un des trucs. On fait des arrangements avec des joueurs sans tenir compte de la direction technique ou encore des joueurs qui manquent de l'argent qu'on leur doit. Si c'est ça, ne pas s'entendre avec les joueurs, c'est que nous favorisons justement l'indiscipline dans l'équipe nationale. Un entraîneur ou un directeur technique peut ne pas s'entendre avec un joueur. Ça n'empêche pas qu'il puisse rester professionnel et qu'il puisse faire son travail de telle manière à ce que le joueur soit productif.
Alors, vous êtes limogé par la Fédération centrafricaine de basketball, mais maintenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Finalement, qui vous a engagé?
Non, mais écoutez, c'est très simple. La Fédération centrafricaine de basketball propose des entraîneurs. Le ministère est celui qui décide qui va être DTN. Donc, la Fédération aurait pu proposer 2 personnes, préférer une personne, et c'est l'autre personne qui soit nommée. Donc, ce n'est pas un débat à ce niveau. La Fédération n'a pas le pouvoir de limoger un DTN. Ça se fait par le ministère et elle se doit de parler avec le ministère. Et si le ministère donne son accord, ça se fait de la sorte. Sinon, ça crée une crise qui est inutile et des clashs qui ne sont pas importants et qui enveniment la situation de notre basketball.
Monsieur Eugène Péoa-Pelema, merci.
Merci Claire.